Femmes et médias est un podcast en 4 épisodes enregistré le 25 février 2025 au Palais d'Iéna à Paris à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental. Il est produit et réalisé par L'Onde Porteuse. Femmes et médias, épisode 3.
Femmes et médias, les rencontres de l'égalité.
Femmes journalistes, à quel prix ?
Julia Foyss,
Benoît Bouscarel.
Y aurait-il un prix à payer à être femme et journaliste ? On aimerait se dire que tous les journalistes sont libres et égaux en droit et en salaire, mais la réalité sur le terrain, dans les rédactions et même dans les pays où la liberté de la presse est garantie n'est pas celle-là, pas encore. Invitée de cette émission, Laetitia Greffier, rédactrice en chef à Ouest France, Aurélia Sevestre, journaliste et militante syndicale, Emmanuelle Dancourt, fondatrice de MeToo Media et Nora Hamadi, productrice de l'émission 12 France sur France Culture. D'abord, un reportage, Julia.
Que nous disent les jeunes générations, celles qui ne sont pas encore journalistes mais qui aspirent à l'être ? Nous sommes allés à la rencontre de 3 étudiantes du Centre de formation des journalistes à Paris, Héloïse, Adèle et Louane. Elles sont devenues adultes avec MeToo. Elles ont eu l'occasion aussi d'évoquer ces sujets en profondeur avec MeToo Media qui intervient en première année au CFJ. Bref, on pourrait se dire qu'elles ont les outils. Pour autant, la suite les inquiète tant sur la place qu'elles pourront prendre que sur les sujets qu'elles auront à traiter. Écoutez.
Je pense qu'il y a une peur dans le journalisme où il y a toujours eu ce rêve d'objectivité et il faut être le plus neutre possible, etc. Et du coup, quand on parle de féminisme, je pense que c'est un peu la limite, la frontière où les gens commencent à se questionner en disant « Ouais, mais est-ce que c'est militant ?»
C'est trop
militant,
ou est-ce que...
Alors que c'est des valeurs humaines, que tout le monde soit traité et... Également, c'est pas du militantisme, quoi. Et je pense que les chaînes, ça, et les anciens, ont peut-être plus de mal à le comprendre. Moi, je sais que quand j'ai passé les concours, la première fois, pour Sciences Po, j'avais fait un dossier qui était quasiment entièrement tourné sur le féminisme, mais en me disant, c'est une plus-value, en fait. C'est comme si j'avais fait des années d'études d'histoire, que j'étais experte ou de géographie.
Dans le Moyen-Âge.
ou experte d'un pays. Là, je le voyais plutôt comme un prisme de... Ah bah c'est un truc en plus que je vais pouvoir apporter dans une rédac.
Pour mon sujet ESJ, là, d'invention sur 64, j'avais fait aussi sur les féminicides un texte. C'était un texte libre et tu partais du chiffre 64 et tu pouvais écrire un sujet d'invention comme tu voulais. Et j'avais parlé aussi de ces sujets-là. Donc je pense qu'aussi les écoles, quand elles reçoivent leurs dossiers aujourd'hui, elles ont dû voir des thématiques, des sujets beaucoup plus revenir qu'auparavant.
Ah c'est sûr.
Ouais.
Je sais que mon premier oral blanc, du coup, on m'avait dit... parce que c'est le truc à la con, je pense qu'il ne sert à rien, mais dans les CV, les centres d'intérêt, les trucs comme ça... et j'avais mis études de genre, féminisme, j'en faisais à la fac, quoi. Et il m'avait dit, genre, oh, ça sent un peu mauvais quand même. Dans ton dossier, ça va faire trop militant, ou alors faut que tu...
Ouais, moi aussi, on m'avait conseillé d'enlever... D'enlever des... C'était une étudiante qui m'avait dit « Je ne suis pas sûre que mettre le documentaire sur Amber Heard et Johnny Depp, que ce soit une bonne idée et tout. » Du coup, je l'avais supprimé. Bon, maintenant, je ne le referai plus, je pense. Maintenant, quand je propose des sujets et que je suis confrontée à ça, je les défends. Mais quand tu es jeune et que tu es dans une position où tu as vraiment envie d'entrer dans l'école, tu vas te dire « Bon, je vais mettre un truc sur la géopolitique.
» Je vais montrer à quel point je suis intelligente.
De gauche à droite, sur l'image, c'était Héloïse Pognan, Adèle Brigand et Louane Auvray, journaliste en formation au Centre de formation des journalistes, promo 78. Image d'Anthony Frutos de L'Onde Porteuse.
On voit que les choses avancent lentement. J'ai envie de vous poser une première question, Laetitia Greffier, après ces témoignages qui sont évidemment pas représentatifs, mais on voit là une jeune génération quand même qui arrive et qui a aussi tendance encore à édulcorer un peu les CV. Pour entrer à Ouest France aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire attention comme ça ou est-ce que vous êtes un peu plus, au fait des grandes questions féministes et des grandes questions aussi qui se posent dans la tête des jeunes journalistes ?
Bon, je ne pense pas qu'il faille faire attention à son parcours quand on se présente dans une candidature pour être journaliste, c'est déjà la base. On a un parcours, on a une valeur, qu'il soit militant, engagé ou pas, c'est pas la question. La question, c'est... Est-ce qu'on est en capacité et en compétence de faire de l'information, ce qui est le métier d'un journaliste, dans un cadre, pour ce qui est d'Ouest France, extrêmement chartée, avec des chartes d'écriture sur un certain nombre de sujets qui vont du fait divers à la parité, au traitement de la démocratie. Donc moi, c'est ça que je vais regarder dans une candidature. Et le parcours, ce qu'évoquaient ces jeunes filles, bah, je vais les regarder comme une expérience et une compétence, comme je regarderais n'importe quel autre sujet. Donc je ne crois pas qu'il faille avoir peur de l'écrire sur son CV.
Pas besoin d'enlever les travaux sur les études de genre, par exemple.
Non, je pense pas.
Vous avez mis en place un certain nombre de choses à Ouest France concernant l'égalité, à la faveur aussi d'un renouvellement de génération récente. C'est assez intéressant. Comment vous pourriez nous en parler en quelques mots ?
Eh bien, ce sont les jeunes femmes qu'on vient d'entendre, hein, qui intégreront des rédactions dans quelques années. Nous, on a eu la chance à Ouest France, donc je rappelle qu'Ouest France, c'est 750 journalistes, donc on a eu la chance dans les 10 dernières années d'avoir une pyramide des âges qui nous a permis de renouveler la rédaction. Et à ce moment-là, dans les recrutements, on a donc pu féminiser la rédaction, qui ne l'était pas, et on a pu embaucher beaucoup de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes, qui avaient ces thématiques, évidemment, en réflexion. Et la chance encore que nous avons eue, c'est que ces jeunes journalistes sont rentrés dans la rédaction, eh ben, en 2018, ils sont venus nous voir en disant ben, « Nous, on a réfléchi, et on pense qu'éditorialement, il y a des choses à penser, il y a des choses à revoir, il y a des choses à discuter ensemble. » Et donc, on leur a dit ben, « Très bien, travaillez. » Dites-nous quoi et revenez nous voir. Et 3 mois après, ils sont revenus avec un certain nombre de propositions qui nous a permis de lancer ce qu'on a appelé un réseau égalité au pluriel et de pouvoir lancer plein de choses qui aujourd'hui sont des outils de quotidien qui vont de... Je rappelle qu'en 2018-2017, on ne féminisait pas les titres et les fonctions dans un certain nombre de titres de presse. On disait pas directrice, hein, on disait directeur. C'est pas si loin. Donc, c'est passé par des choses de féminisation, c'est passé par la mise en place de baromètres pour mesurer la place des femmes, c'est passé par des écritures sur des chartes d'écriture non sexistes, par les collaborations avec les annuaires des expertes, par la mise en place d'annuaires propres. Voilà, un certain nombre d'outils qu'on utilise encore aujourd'hui. Et là où on a une humilité complète sur ce sujet, c'est que c'est la rédaction qui a vraiment bien porté ce sujet et qui a permis qu'il émerge.
Oui, mais on voit que les enjeux sont liés, enjeux RH et enjeux éditoriaux aussi, puisque ce sont les jeunes journalistes qui ont fait changer les choses. Néanmoins, Laetitia Griffier, vous restez vigilante sur ces questions, parce que c'est jamais gagné, évidemment. Vous me disiez en préparant cet entretien que finalement c'est comme travailler une ligne éditoriale. Il y a cet enjeu tout le temps de remettre les questions.
Oui, ce que je disais, c'est que alors effectivement l'aspect éditorial pour moi est vraiment très lié à l'aspect RH dans une rédaction. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment si vous portez éditorialement ce sujet dans la rédaction, c'est quand même plus simple en termes RH de faire avancer les choses. Vous pouvez pas convaincre une rédaction d'écrire des sujets et en interne ne pas pousser ces thématiques. Et effectivement, ce qui est important, c'est que ça devient une entité de la ligne éditoriale du journal. Et encore une fois, nous, historiquement, on a tellement beaucoup de chartes sur tellement de sujets qu'on a aujourd'hui un corpus et on y a intégré la parité et l'égalité. Et aujourd'hui, ça fait partie de la discussion de la ligne éditoriale, en fait. C'est comme, voilà, c'est comment je traite ce sujet de manière paritaire, c'est la même question que comment je traite ce fait divers.
Ouais. 60 rédactions à Ouest France. Il y a une majorité de femmes, d'ailleurs, à la direction, je crois, des rédactions, où il y a en tout cas quelque chose qui s'est vraiment passé ces dernières années.
Alors, on n'est pas encore parfait, mais ce qui s'est passé avec ce mouvement d'embauche dont je vous ai parlé, ça nous a permis de féminiser l'ensemble de la rédaction, beaucoup plus. Alors aujourd'hui, on a 47%. C'est pas parfait, il y a encore un peu de travail. Ce qui est très intéressant quand on regarde les évolutions, c'est donc nous on a des strates de responsabilité qui vont de ce qu'on appelle un chef d'agence qui va diriger 2 personnes, après on va avoir un chef de rédaction qui va en diriger 10 ou 20, ensuite
c'est
un directeur départemental ou une directrice départementale, ça va être 70, et la rédaction en chef. Donc quand je reprends ma typologie, aujourd'hui j'ai 66% de femmes qui sont chefs d'agence. J'ai 53% de femmes qui sont chefs de rédaction. Mais au niveau départemental, j'arrive à 41%. Et quand j'arrive à la rédaction en chef, j'arrive à 27%. Logique, j'ai récupérer, j'ai envie de dire, des années où, bah voilà, il n'y avait pas de parité et les femmes n'avaient pas pris de responsabilité dans l'entreprise.
Vous faites de la discrimination positive pour tenter de faire en sorte que ça évolue? Bah, plus
oui,
vite.
Oui, et je crois qu'il faut pas. C'est très clair dans la phase d'embauche qu'on a fait dans les 10 dernières années. Si on veut arriver à une rédaction paritaire, oui, on est amené à faire de la discrimination. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose de plus, je dirais, satisfaisant. Mais dans ces années-là, oui, bien sûr.
Au sein du groupe moniteur Aurélia Sevestre, vous travaillez. Je rappelle que vous êtes élue SNJ au sein de ce groupe. C'est de la presse professionnelle. Est-ce qu'on a des chiffres aussi bons? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi peut-être les difficultés de votre rôle d'élu?
Deux choses. Nous, on est vraiment majoritaire, hein, les femmes journalistes. On est à plus de 60% de femmes journalistes dans la presse professionnelle, à groupe moniteur. Et globalement, la féminisation de la profession a arrangé, ou en tout cas facilité beaucoup, les processus de recrutement égalitaire. C'est beaucoup moins compliqué quand on a plus de femmes candidates de recruter plus de femmes, donc, et d'arriver à une parité. Je voulais juste revenir sur le reportage là qui a été fait. C'est intéressant de voir que cette question de neutralité, inquiète. On est toujours un petit peu empêtré dans cette question de neutralité. Est-ce que je peux traiter tel ou tel sujet? Est-ce que ça va pas me fermer des portes? Est-ce que ça va pas être trop engagé? Et on a cette question qui ressurgit particulièrement dans notre profession de l'engagement militant, féministe, syndicale, voire politique, parce que journaliste, on est censé être neutre et même objectif. Bon, on a un peu démonté cette illusion de l'objectivité là depuis un certain temps. Je trouvais ça très intéressant, la citation qui a été faite, je ne sais plus de qui, de dire en fait l'objectivité, c'est la subjectivité des dominants. C'est vraiment très, enfin, très clair et très juste, ouais. Très juste. Ouais.
Ouais. Comment ça se passe pour vous, le militantisme est aussi plus difficile? Vous ressentez ça comme
alors,
ça?
Concernant l'engagement syndical au syndicat national des journalistes, il y a 20 ans de ça, quand j'ai pris le premier contact avec un élu SNJ de mon entreprise, à l'époque je travaillais à Publihebdo, qui est une filiale du groupe SIPA Ouest-France. J'ai le directeur commercial qui a débarqué dans la rédaction et qui m'a dit « mais t'es folle, tu vas te griller, t'arrêtes tout de suite ». Donc il y a une pression. Quand on est femme, mais sans doute peut-être aussi quand on est homme, mais en tout cas je pense qu'il se permettait de me faire cette réflexion parce que j'étais femme et jeune, voilà, journaliste.
Aujourd'hui ça évolue quand même.
Je me souviens plus de la question initiale par rapport à mes difficultés au groupe moniteur. Les relations sociales sont extrêmement difficiles, on est dans des rapports de force complètement inégalitaire, et encore le terme inégalitaire est vraiment faible. Ouais. Et donc c'est très très compliqué de faire avancer les choses. Alors là, on va parler effectivement sur les accords égalité professionnelle qui sont conclus, de faire avancer les choses pour obtenir des résultats concrets avec des mesures précises qui vont permettre effectivement de faire progresser les femmes à des postes à responsabilité et de réduire les écarts de rémunération salariale.
On parlait de discrimination positive tout à l'heure avec Laetitia Greffier. On peut aussi éventuellement parler de rattrapage de salaire spécifiquement pour les femmes, ça c'est quelque chose qui existe aussi et qui peut permettre de régler des situations. Ça peut paraître hallucinant de se dire qu'il faut en passer par là, c'est bien la preuve qu'il y a un problème, mais c'est une des solutions comme ça qui sont à disposition des groupes de presse pour rattraper des inégalités.
Oui, tout à fait. Alors ça peut paraître effectivement une mesure radicale, mais c'est la meilleure qu'on a trouvée. Elle est rarement appliquée.
C'est des enveloppes.
C'est des enveloppes de rattrapage salarial. Voilà, il y a eu un accord qui a été conclu à France Télévisions, qui est particulièrement exemplaire. Il y a 1 million d'euros qui a été mis sur la table pour rattraper donc les salaires, les disparités salariales. Et il y a près de 350 femmes journalistes qui en ont bénéficié.
Ouais. Vous me disiez, cela dit, en préparant cette émission, que quand vous êtes devenue élue au CSE, du groupe Moniteur, vous avez quand même découvert un peu le poteau rose. Et vous avez aussi un peu quand même compris que les choses ne changeaient pas tant que ça et qu'il y avait encore énormément de combats à mener.
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on baigne toutes et tous dans une forme d'illusion, de croyance en l'égalité formelle entre les sexes. On a des accords égalité pro qui sont signés partout. On se dit, mais ça avance, c'est super. Et puis, quand on lit l'accord en question, en ce qui concerne le groupe moniteur qui fait partie d'une filiale, hein, enfin qui est une filiale d'un groupe plus important qui s'appelle InfoPro Digital, eh ben, on se rend compte que cet accord ne fait que reprendre le code du travail et rappeler les droits de
la base, quoi.
Les salariés. Mesdames, vous avez le droit d'aller à vos 3 visites médicales obligatoires quand vous êtes enceinte. Messieurs, vous avez le droit à 28 jours.
N'oubliez pas d'y aller, peut-être, c'est ça aussi, non
Messieurs, vous avez le droit à 28 jours de congé paternité. Ouais, et mesdames, messieurs les salariés, vous avez le droit de vous donner les uns les autres 5 jours de congé payés par an.
Est-ce que à Ouest France, Laetitia Greffier, vous avez des mesures, peut-être aussi pour faciliter le militantisme, ou en tout cas le travail des syndicats qui représentent les journalistes ?
Autour des questions de l'égalité ?
Notamment.
On a évidemment, aujourd'hui même d'ailleurs, une rencontre autour de l'égalité salariale. Ça fait partie de notre quotidien. On a plein de rencontres sur plein de sujets, dont celui-ci. Effectivement, la question en ce moment, c'est évidemment à l'embauche le même niveau de rémunération, ce qui est juste la base. Ensuite, la question du rattrapage, parce qu'il y a encore des cas de décalage. Et puis des mesures autour du retour, après le retour de congé maternité, de regarder les évolutions potentielles sur un même poste, alors que la collègue était absente. Donc oui, il y a des discussions permanentes sur ces sujets, et on essaye de trouver des accords. C'est pas on sait que ça prend parfois un peu de temps, mais c'est juste essentiel. Je voudrais reprendre ce que vous disiez, qu'effectivement. C'est une question qui doit être permanente parce que tout n'est pas parfait, et j'ai envie de dire, si on arrive un jour à ce que ce soit vraiment parfait, on sera très fort. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de mouvements dans nos rédactions, il y a des gens qui rentrent, des gens qui partent. Je donnais tout à l'heure les chiffres de la parité. Moi, j'ai un problème, j'étais très fière dans la rédaction sportive d'avoir deux femmes chefs. Moi, aujourd'hui, j'en ai 0. Il faut recommencer. Donc en fait, c'est une question vraiment quotidienne et qu'il faut avoir toujours en tête. Et toutes ces questions de rémunération et d'accession à la responsabilité en est une. Alors pour répondre à votre question, on a effectivement, pour permettre à des femmes de prendre des responsabilités, mis en place un certain nombre de choses. C'est pas parfait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on a quand même eu des choses intéressantes. D'abord, nous, on autorise, parce que je dis autoriser, parce que je pense pas que ce soit le cas partout, une femme à être en responsabilité à temps partiel. Ça, c'est pour nous, c'est pas une question. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place. Il arrive malheureusement que des collègues, aient une jambe cassée et partent pendant 6 mois. On va proposer à une femme. Si elle a envie de prendre des responsabilités pendant cette période, juste pour le vérifier. Et puis dernière chose, on fait beaucoup ce qu'on appelle du copilotage, c'est-à-dire des doubles directions d'équipe qui permettent aussi de voir si on a envie de poursuivre sur ce terrain-là.
Merci beaucoup pour vos témoignages à toutes les deux. Merci Laetitia Greffier, merci aussi Aurélia Sevestre.
Merci.
On disait quoi déjà tout à l'heure ? L'union fait la force, hein, Benoît ?
Oui.
Je crois que c'est ça. On va partir maintenant à la rencontre d'un média fabriqué entièrement par des femmes, Med Feminist Suya, réseau de femmes journalistes tissé autour de la Méditerranée, du Maroc à la Croatie en passant par Malte. Il compte désormais 60 membres. Écoutez deux d'entre elles, Olfa Belassine et Samia Alalou.
On parle souvent des femmes en tant que victimes. Bon, ça a commencé à changer depuis MeToo. Mais on s'est dit, nous, on voudrait une information à la source, par des journalistes qui sont sur place. Et c'est ainsi qu'on a rassemblé une première fois une vingtaine de journalistes. On sait qu'il n'y a pas ce mythe du Sud et du Nord. C'est-à-dire que ça se passe mieux au Nord, ça se passe pas bien au Sud. Et nos rencontres montrent très bien qu'on est toutes ensemble, qu'on est toutes pareilles et qu'on fait tout notre possible pour faire avancer les questions, pour donner une information, une information sourcée.
La question de l'avortement, elle fait débat un peu partout en Méditerranée. À Malte, c'est un vrai problème parce que même les médecins qui font cette opération, ils sont pénalisés par la loi, y compris quand il y a des viols, quand il y a des problèmes d'inceste. Ces questions qui sont reléguées dans les dernières pages, dans les rubriques faits divers, par exemple, alors que ce sont des questions hautement sociologiques, hautement politiques. Donc nous, nous voulons combler ce déficit.
Tout le temps, on recule, on avance, on recule, on avance. Et là, on a l'impression d'être dans un recul qui est un peu effrayant, mais ça ne nous désespère pas, puisqu'on continue à travailler. Elles continuent, elles, les journalistes ou les féministes, à accompagner les femmes ou à donner cette information le plus objectif possible. Et on continue, et on y croit.
Voilà un reportage sur Med Feminist Wea, que je vous conseille d'ailleurs d'aller consulter. Hein. C'est un site extrêmement intéressant, reportage réalisé avec Anthony Frutos de la rédaction clermontoise de L'Onde Porteuse. Julia.
On accueille donc Nora Amadi, productrice de 12 France à France Culture, et Emmanuelle Dancourt, cofondatrice de MeToo Media. J'avais envie de vous poser la question à toutes les deux. Quand est-ce que vous avez fait pour la première fois dans vos rédactions l'expérience du sexisme? Quand est-ce que vous avez dit « Ah, donc en fait, je suis une femme ». Emmanuelle Dancourt?
À poil, l'animatrice.
Ah, voilà, c'est ça.
Voilà, premier reportage sur le terrain, Saint-Vincent-Tournante en Bourgogne. J'étais à François-Bourgogne-Franche-Comté. Premier duplex de ma vie et un nombre incalculable de mains aux fesses. Et tous ces cris qui sortaient. Et c'est tout ce dont je me souviens de ce reportage.
Et vous, Noura Amadi?
Alors, moi, c'était quelqu'un qui était à l'époque mon rédacteur en chef et on remonte de studio après 2 heures de direct et qui passe derrière moi dans l'escalier et qui me dit « t'as quand même un cul d'enfer, quoi ».
Et pour, ouais. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés à iTélé toutes les deux.
C'était à cette époque-là.
Et à l'époque, la direction avait changé et le directeur avait dit « une femme, c'est des seins, des cheveux ». Des mains, donc pas de cerveau. Hein.
Et il avait dit aussi, souviens-toi, à l'époque...
C'est le même.
Il a dit, de toute façon, maintenant que je suis arrivée, je vais être très grossière, je vais mettre des putes et du foot à l'antenne.
Voilà.
Et
voilà.
Là, j'ai eu droit... moi, j'ai eu droit, avec mon nouveau directeur, t'as une paire de nibards, toi.
Voilà. C'est ce qui nous attend quand on commence.
Il y a des kilomètres. Sans vous parler aussi des invités politiques.
Ah oui, alors.
Parce que j'en ai eu des palanqués aussi.
De là à dire que les 3 étudiantes en journalisme qu'on a vues tout à l'heure ont quelques raisons d'être inquiètes. Enfin bref, Nora et Emmanuel, vous avez toutes les deux des parcours assez atypiques. Pour le coup, vous n'avez pas fait d'école l'une et l'autre. Nora, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'avais pas prévu moi d'être journaliste. C'est arrivé complètement par hasard sur le tard. J'étais prof de sociologie. J'étais prof dans des instituts de formation pour travailleurs sociaux et au hasard d'une expérience professionnelle au journal Le Parisien aujourd'hui en France. C'est un des rédacteurs en chef du service éco qui m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu nous fais chier à faire de la recherche? Tu poses des questions moins connes que la moitié de mon service, donc tu vas arrêter FISA, et puis tu vas t'y mettre. Sauf que moi, j'avais pas du tout les moyens à 25 ans de reprendre une école de journalisme.
Et les écoles sont extrêmement chères.
Elles sont extrêmement chères. Moi, je travaillais déjà depuis presque 10 ans. Il y avait pas de convention ZEP, il y avait pas de bourse, il y avait même pas la chance comme la chance au concours. Donc, c'est système de préparation à l'époque, hein. C'est-à-dire que j'ai peut-être l'air comme ça. Mais en fait, j'ai un peu de kilométrage. Et du coup, voilà, il était hors de propos pour moi de reprendre une école à 25 ans, et donc j'ai fait des demandes de stage. Et à l'époque, je me suis fait envoyer sur les roses par des gens qui me disaient « Écoutez, madame, mademoiselle, vous avez déjà un parcours atypique, mais qu'est-ce que vous venez faire là ? Enfin voilà, vous n'avez rien à faire là. »
C'est l'une des clés du problème quand même, c'est le coût de ces écoles qui fait aussi le lit d'une forme de reproduction des schémas d'une pensée dominante qui ensuite se dira... Objective.
Complètement. Il faut quand même se dire que les écoles de journalisme sont accessibles en général à minimum bac plus 3, voire aujourd'hui en fait en master. C'est drôle parce que j'y ai enseigné, donc il y a toujours un petit côté rigolo de se retrouver de l'autre côté quand on a nous-mêmes pas passé cette trajectoire-là. Donc c'est en général niveau master. Il faut faire des prépas qui ont un coût, même si aujourd'hui certaines sont gratuites. Il faut passer des concours qui coûtent eux-mêmes, traverser la France, et puis être capable pendant 2 ans de ne pas travailler. Et moi, je suis issue de quartier populaire, d'une famille qui avait, certes, que j'étais pas boursière, mais il était hors de propos de retourner dans ces conditions-là à ce moment-là. Donc, j'ai bouffé des patates pendant 2 ans avant de réussir à pousser des portes, passer par la cheminée. Voilà. Donc ça a été une trajectoire pas simple, mais la question de l'ouverture, les biais sociaux sont énormes. La plupart des gens, donc après un master, c'est-à-dire une trajectoire à peu près sans accroc à l'université, la voie royale, c'est quand même d'avoir fait Sciences Po. Alors si vous pouvez, Sciences Po Paris, évidemment. Donc à qui ça s'adresse? Moi aujourd'hui, on a beau essayer de se dire il faut diversifier nos rédactions, à l'heure qu'il est, et je vais le redire ici puisque je le dis à peu près toutes les semaines à France Culture en réunion de programmation, sur une antenne qui va de 6h30 à 22h du lundi au dimanche, je suis la seule non blanche. Je suis la seule qui n'est pas issue, voilà, de ces trajectoires qui passent soit par normal, soit par des écoles de journalisme, soit par, voilà, ça n'existe pas. Tout ceci est totalement invisible. Ce qui fait qu'en termes de biais dans la production de l'information aujourd'hui, parler des territoires, puisque moi, c'est, mon émission parle de, des territoires, donc c'est ça qui est marrant, hein, c'est comme la province, c'est tout ce qui n'est pas Paris. En gros, je vous la fais courte, et c'est les gens invisibilisés. Donc ce qui raconte aussi, et j'en termine là, souvenez-vous du traitement médiatique des Gilets jaunes dans les premières semaines en fait du mouvement, le niveau de mépris de classe qu'on a pu entendre. Voilà, on est face aujourd'hui à des rédactions qui sont profondément blanches, urbaine et de catégories socio-professionnelles extrêmement aisées. Et ça pose un problème aujourd'hui démocratique. Pourquoi ? Parce que ce miroir qu'on renvoie à la France, bah, il est pas du tout à l'image de ce que sont les Français, les citoyens et nos territoires.
Vous, Emmanuel Dancourt, vous avez commencé par des études de commerce pour faire plaisir à votre père, hein, je crois. Vous êtes mariée, vous avez coché à peu près toutes les cases. Et hop là, voilà votre tante qui vous signale un casting sur France 3 Dijon. Vous y allez, vous le passez, vous l'avez. Quelle est l'ambiance à la rédaction à ce moment-là ?
Alors moi, j'étais pas à la rédaction même qui était au rez-de-chaussée. J'étais à l'étage des programmes, ceux qui font les émissions du samedi après-midi sur les France 3 régionaux. Quand je suis arrivée, j'avais 23 ans. J'étais pas encore mariée, j'étais pas encore mère de famille nombreuse. J'étais vraiment une noix blanche, hein. Vraiment, parce que je suis arrivée là, effectivement, un peu par hasard pour faire plaisir à Tata Jacqueline. Et donc, c'était une ambiance très sympa, mais plein de blagues sexistes, de mains aux fesses, et j'étais pas du tout là-dedans, donc je me sentais complètement décalée. J'avais un assistant que j'adore, qui est d'ailleurs un très très bon ami, mais qui était beaucoup comme ça, et tout le monde était comme ça, donc j'ai commencé à faire pareil, je me suis dit, bon, bah, j'étais choquée au début, puis au bout de 6 mois, je crois que c'est moi qui faisais les plus grosses blagues sexistes, et qui mettait la main aux fesses aussi, mais c'était comme ça, on se disait bonjour comme ça le matin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas toi, en fait. Il y a un truc qui m'a... Ouais. Et puis, il y a l'histoire des... T'as une paire de Nibar qui est arrivée derrière. Ce même patron, quand je me suis rendu compte que j'étais pas payée, même pas au SMIC, qui m'a dit, mais t'es jeune, tu peux manger des patates. Et là, ça a commencé à me titiller. J'ai dit, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas.
Vous avez fini par partir et...
On m'a aidée à partir.
Vous hein, rejoignez...
Quand j'étais enceinte de mes jumeaux.
Ouais. Ah, voilà. Le genre d'aide dont on se passerait bien. Voilà. Vous commencez sur KTO, vous serez l'une des têtes d'affiche de la chaîne pendant près de 20 ans avec votre émission Visage inattendu de personnalité. C'est dans ce cadre-là que vous rencontrez Patrick Poivre d'Arvor. Première rencontre qui conduira à une agression dans son bureau, comme chaque fois, et à 1 an de harcèlement, on est en 2008. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quand ça se produit ?
Alors, c'est très particulier parce que KTO est une chaîne d'obédience catholique, où j'ai officié pendant 19 ans et 15 ans sur cette émission où j'ai reçu plus de 600 personnalités. J'ai jamais eu un souci dans cette chaîne-là, attention. Hein. Mais effectivement, ça me faisait... À quoi tient une vie, hein, ça me faisait marrer d'inviter le pape de l'info dans une chaîne catho. Et je faisais la seule émission non catho de la chaîne, le samedi soir en prime time, etc. Et au moment où c'est arrivé, moi j'étais quelqu'un de très poli, très très catho pratiquant, très n'élevez pas vos filles pour être polies, pitié. Apprenez-leur à ne pas être polies parce que c'est pour ça que j'ai été agressée sexuellement. J'étais trop polie. Et j'ai pas compris en fait pour la seule fois de ma vie quand l'émission s'est terminée, une émission dans les conditions du direct, 52 minutes sans montage, PPDA était ravi. Moi j'étais furibarde, furieuse. Et il m'a dit, dans la loge, il m'a dit, de manière très sirupeuse, on commençait à me toucher un peu partout, « Alors Emmanuel, comment tu as trouvé l'émission ?» Et là, j'ai explosé. Je lui dis, j'ai trouvé nulle l'émission. Et jamais je me serais permis de dire ça. Jamais je me serais permis. Mais là, j'ai explosé. J'ai dit, écoute, elle était nulle cette émission. Tu te mets en avant. Tu te valorises. Y en a que pour toi. Voilà. Et j'ai pas compris que ça pouvait exciter un homme qu'on l'affronte comme ça. Donc il m'a proposé de venir voir le JT de TF1. Et après cette agression sexuelle, je n'ai pas compris que j'avais été agressée. Hein. Il a fallu qu'on me le dise quand j'ai porté plainte le 22 avril 2021, quand le major exceptionnel, on appelait ça comme ça, qui a mené l'enquête dans l'affaire PPDA, m'a dit « Mais vous avez compris que c'est une agression sexuelle ?» Je l'ai regardée parce que j'ai toujours cru que c'était de ma faute. Qu'est-ce que j'avais pu faire pour que cet homme me saute dessus dans son bureau ? Voilà. Et mon engagement comme, féministe comme date de là. Aussi, hein. Vraiment, parce qu'avant, le féminisme, ça me parlait pas du tout. Hein. J'étais dans une famille très déconstruite, moi. Donc,
2021, c'est une année clé dans cette affaire-là, puisque c'est le moment où Florence Porcel porte plainte. C'est le moment où un certain nombre de femmes vont porter plainte, où elles sont toutes classées sans suite pour prescription, et vous retrouvez huit visages dans sur cette une mémorable de Libération où vous racontez toute votre histoire. Aujourd'hui, 22 plaintes. Et plusieurs dizaines d'accusations. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une chaîne comme TF1, et je ne la nomme pas elle particulièrement, mais que le système médiatique permette à des prédateurs de prospérer en toute impunité pendant des années? Les ingrédients, c'est quoi?
Alors, d'abord, on le comprend pas, on va être clair. On est plus de 60 à être allé voir la police dans cette affaire-là, PPDA, mais à MeToo Media, on gère des tonnes d'affaires dont vous entendez parler dans la presse, et puis surtout, une grande majorité dont vous n'entendrez jamais parler, parce qu'on peut pas les médiatiser, qu'elles passent sous les radars. Comment on comprend que M6 vire enfin Plaza, mais il aura fallu que le pénal passe par là, alors que le droit du travail oblige les entreprises à se prendre en charge, et TF1, dès le départ, dans le cadre de son contrat de travail avec PPDA, aurait dû le suspendre, puisque dans le droit du travail, vous savez que vous êtes obligé de tout de suite suspendre le mise en cause le temps d'une enquête interne. Mais le problème, c'est que ça dépend un peu de la maturité de l'entreprise, de là où elle en est. TF1, aujourd'hui, ils sont assez matures sur le sujet. Ils s'en sont tellement pris plein la figure. Là, on voit qu'il y a un rédacteur en chef qui a été tout de suite suspendu suite à des accusations. M6, ils ont joué, ils ont soutenu Plaza à mort en 2023 parce que c'est des millions. Et puis finalement, ils ont fini par le déprogrammer pour le débrancher là au moment où la condamnation est tombée il y a 10 jours. Quand on voit tout le groupe Canal, donc CNews, qui nous garde Morandini à l'antenne malgré des condamnations hein, de 1 an de prison avec sursis, en fait, on comprend pas. Il faut que le législateur trouve la loi qui permette aux entreprises de ne pas avoir trop le choix sur l'enquête interne, que cette enquête interne soit faite par des spécialistes, pas en interne, mais en externe, et aider les entreprises à s'organiser là-dessus.
Comprendre, ça n'est évidemment pas excuser, c'est mettre en lumière des mécanismes qui font que un système de prédation puisse se mettre en place. Nora Hammadi, je vous voyais secouer la tête. Vous, à contrario, vous avez passé une dizaine d'années à Public Sénat, entre 2009 et 2020, et quand je dis à contrario, c'est que vous dites que là, pour le coup, c'est l'endroit où vous avez été le plus libre d'être qui vous étiez. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur une plus petite chaîne? Est-ce que c'est parce que les rapports de pouvoir ne sont pas les mêmes?
Non, les rapports de pouvoir sont exactement les mêmes partout. Je pense qu'en fait, c'est là aussi des questions d'enjeux, notamment d'enjeux économiques. Des chaînes comme les chaînes parlementaires, et c'est pas leur faire offense, ne vont pas regarder de manière aussi systématique que d'autres chaînes, en fait, les courbes d'audimat vont pouvoir se permettre de faire des expérimentations sans avoir à déprogrammer au bout de 2 semaines parce que ça ne rencontre pas son public. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à quelque chose, moi, qui était absolument pas prévu, à ce qu'on me colle à l'antenne alors que c'était pas du tout un projet de mon côté. Enfin voilà, un jour j'ai un rédacteur en chef qui me dit bon, va falloir qu'on fasse des trucs avec ça. Enfin voilà, bah tu sais quoi, on va produire un format, un truc pour le stock. Ça veut dire le stock, c'est-à-dire c'est extrêmement régulièrement remis à l'antenne. Voilà, et donc ça a été quelque part un terrain d'expérimentation, un peu un safe space, mais qui n'est pas exempt en fait d'espace de rapport de domination. On a parlé tout à l'heure des questions en fait de place et de positionnement, notamment des femmes dans la hiérarchie, de la précarisation, des salaires. On est quand même aujourd'hui sur des niveaux de salaire, y compris d'ailleurs à Radio France où je suis aujourd'hui, qui sont absolument, enfin, honteux quand on voit le niveau d'études en fait qu'on met en face. Et je le dis ici sans aucun problème, hein, c'est quand même, enfin, les grilles sont connues, donc allez-y, je vous invite à aller regarder. Pour autant, en termes de critères, on a commencé tout à l'heure sur le sexisme et sur la sexualisation des femmes qu'on met à l'antenne. Ça, c'est quelque chose typiquement que j'ai pas connu à cet endroit-là, parce que on va pas vous demander d'être un porte-manteau, on va vous demander en fait d'être avant tout journaliste, parce que moi je l'ai vécu par ailleurs ensuite, hein, quand on vous demande d'être un porte-manteau. Voilà, vous avez des gens qui vous disent que dans le conducteur et dans ce que vous devez dire, c'est telle question, telle question, telle question. C'est à peine si vous êtes convié en fait aux réunions, et puis si vous voulez essayer non pas de prendre le pouvoir, mais de prendre votre place en tant que journaliste. Bon, écoute, reste à ta place, surtout. Voilà. Et ça, c'est des mécanismes aussi qui sont liés à des espaces, et je vais être très claire, on a aujourd'hui des chaînes de télévision notamment qui passent par des sociétés de production extérieure qui sont assez petites, où les producteurs qui sont en charge, ou productrices en fait, ont presque droit de vie et de mort, pardon, en fait, sur les équipes, parce que on est face à des gens qui sont tellement précarisés et qui sont soit en pige, soit ce qu'on appelle en CDDU, c'est-à-dire des contrats d'usage qui vous permettent de réduire les périodes de carence qui n'ouvrent pas la totalité des droits. Normalement, c'est des choses qu'on a dans la restauration, chez les saisonniers. Et là, en fait, on a ça. Et donc, il suffit que vous soyez un minimum en désaccord avec une ligne, et en fait, vous avez le droit d'être dégagé. Donc, et c'est comme ça en fait qu'on crée des hiérarchies avec le diffuseur au bout qui lui aussi peut se permettre de vous dire un 14 juillet, il va falloir me rendre des émissions en fait pour le 20 août. Non mais tu comprends que c'est les vacances. Ah ouais, désolé. Hein. Mais vraiment. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, et de la part en fait d'organismes qui se targuent par ailleurs de porter des valeurs qui ne sont pas celles en fait que voilà, qui bref.
Ce que vous décrivez raconte à quel point, Nora, ces violences-là sont avant tout des affaires de domination et donc des affaires de rapport de force. Clairement. Est-ce que c'est pour rétablir un petit peu l'équilibre, Emmanuel Dancourt, que vous créez un MeToo Média, c'est-à-dire que la balance se rétablisse un tout petit peu? MeToo Média créé dans le sillage de l'affaire PPDA avec, entre autres, Muriel Réus. Est-ce que l'idée, c'est un peu celle-là, celle de venir en aide et de prêter main forte, puisqu'on se parle de rapport de force?
L'idée, dans la première enquête préliminaire dans l'affaire PPDA, c'est qu'on était toutes journalistes, quasiment toutes. Et on s'est dit, si nous, on met pas notre peau sur la table pour essayer de renverser le MeToo en France, Adèle Haenel s'est levée, ça a pas suffi, Charlotte Arnault avait déjà parlé sur Depardieu, ça n'a pas suffi, on dit, nous on va essayer de donner, voilà, participer à ça. Donc on fait la une de Libé le 9 novembre 2021, qui a été le Libé le plus vendu ever. Mais ça n'a pas suffi en réalité, et on a dézoomé tout de suite de l'affaire PPDA, on a lancé l'affaire Bourdin juste après. Entre temps, dans l'affaire Hulot, les plaignantes avaient libéré leur parole, on a lancé tout un tas d'autres affaires, et on s'est dit faut qu'on participe à ce mouvement-là avec nos réseaux, parce qu'on a des réseaux mine de rien quand on est journaliste. Et si on m'avait dit que ça prendrait 40 heures par semaine 3 ans plus tard, je l'aurais jamais cru. Mais parce qu'il faut qu'on participe, c'est un mouvement de société. Vous savez, à MeToo Media, on a une baseline, enfin notre phrase d'accroche, c'est il faut passer de MeToo à WeToo. On a 20% d'hommes à MeToo Media et on y tient absolument et on espère augmenter encore, parce que ça veut dire que MeToo, moi je suis victime, j'ai libéré ma parole, je parle, etc., je témoigne. Et vous n'êtes peut-être pas victime, et tant mieux pour vous. Mais on est sur un fait de société qui concerne absolument tout le monde. Il faut qu'on vous embarque tous, puisque tout à l'heure, il y a une jeune fille qui disait « le féminisme, c'est juste des valeurs humanistes, en fait ». Oui, c'est féministe, c'est une idée radicale selon laquelle les femmes sont les égales des hommes. Enfin, c'est quand même fou. Moi, quand on m'a dit « tu es féministe, tu as monté une association féministe », j'ai « ah bon ?» Ok, très bien, prenons ce mot-là, mais il faut tous se l'attribuer, et c'est ça qu'on essaye de faire.
Nora Amadi.
Ouais, je voulais réagir parce que c'est absolument central ce que dit Emmanuel, cette espèce de manière de nous renvoyer, c'était aussi ce qui était dit dans la table ronde d'avant, vous êtes engagée, vous êtes militante, etc. Ah oui. Le niveau, en fait, de délégitimation, et quand on dit, enfin, moi, par exemple, c'est ce qu'on me renvoie souvent, parce que je parle des questions d'égalité, et notamment de quartiers populaires. J'en parle beaucoup, mais parce que j'en suis issue et que c'est des questions qui me touchent. Est-ce que pour autant j'ai une incapacité à être non pas de la neutralité, mais à traiter les choses de manière honnête? Parce que la neutralité, l'objectivité, on va arrêter de se raconter des mythes. Hein. C'est comme Zeus et compagnie, ça n'existe pas. Mais en revanche, cette espèce de délégitimation permanente de nous dire non, mais en fait, en tant que journaliste engagé, mais engagé sur quoi? Pardon. Parler aujourd'hui d'égalité femmes-hommes. Parler aujourd'hui d'égalité entre les individus, entre les territoires. Je dis souvent, non mais en fait je suis digne de Miss France en termes d'engagement, on va quand même se calmer. Moi je dis la guerre c'est pas bien quoi. Enfin, soyons égaux et égales les uns les unes les autres. Donc, enfin. Et se retrouver en fait à être délégitimé comme si finalement on était non pas dans un espace du fait, mais de l'opinion. Il y a quelque chose de dramatique là-dedans, et c'est exactement ce qui se passe avec MeToo Media et en général sur ces questions de violence.
MeToo n'est pas une opinion. MeToo, ce sont des faits.
Oui. Voilà. Merci.
Ce sera les mots de la fin. MeToo n'est pas une opinion.
Oui, c'est très bien
MeToo
comme ça.
MeToo, ce sont des faits.
Oui,
on est bien.
Vous allez rester avec nous quelques minutes encore. Nora Hammadi et Emmanuel Lancourt, restez avec nous. On va recevoir Lucie Daniel de l'ONG Equipop qui va nous parler de ce qui s'est passé ce matin ici au CESE, et on va voir que ça continue à évoquer des questions d'outillage, d'équipement pour des femmes journalistes. Bonjour Lucie Daniel.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots ce matin au CESE? Vous avez réuni des journalistes, pas que des femmes journalistes d'ailleurs, il y avait aussi des hommes, quelques-uns, pour essayer de comprendre comment on allait pouvoir peut-être faire avancer les choses de manière individuelle et collective aussi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ce matin, donc Equipop a organisé une matinée d'échange avec ses partenaires, le collectif de femmes journalistes Prenons la Une et l'agence de formation féministe La Fronde. Et l'objectif, c'était en effet de réunir à la fois des journalistes, des associations féministes, mais aussi des chercheuses, pour réfléchir ensemble à des stratégies collectives pour lutter contre ce backlash.
Vous en retenez quoi des débats alors?
Alors on en retient plusieurs choses. D'abord une belle participation, puisque la salle était pleine. On avait à peu près une quarantaine de journalistes, y compris des journalistes de Belgique, d'Espagne, d'Italie par exemple. Et ensuite je pense qu'on a retenu aussi le fait que nos enjeux étaient liés. C'est-à-dire que les adversaires des droits des femmes sont à peu près les mêmes que ceux qui s'opposent à la liberté de la presse, au pluralisme des médias. C'est quelque chose qui a été dit par les précédentes intervenantes. Souvent, en fait, ces groupes, leur stratégie, c'est de commencer par attaquer les droits des femmes, ouais, qui sont des droits qui sont malheureusement souvent négligés, même en temps normal dans nos sociétés, et puis de s'attaquer à tous les autres fondements de la démocratie, dont l'accès à l'information, notamment.
Vous avez évoqué ce backlash dont on dessine les contours depuis tout à l'heure, et vous lui avez donné une perspective aussi internationale. Ça, c'était un des enjeux de la matinée.
Oui, absolument. Ce backlash, donc le backlash, c'est ce mot qui désigne l'action de mouvements réactionnaires qui vont réagir justement de façon assez virulente dès que les droits des femmes connaissent des avancées. Ce backlash, c'est le fait d'alliances très hétéroclites qui réunissent à la fois des gouvernements conservateurs, des mouvements fondamentalistes religieux, mais aussi des grandes fortunes conservatrices. Et ces mouvements-là, ils ont une capacité en fait à s'unir dès lors qu'il s'agit d'attaquer les droits des femmes. Et puisqu'on parle de traitement médiatique aujourd'hui, cette capacité-là des mouvements anti-droits à s'unir, c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte, parfois minimisé. Mmh. Pourtant, on l'a vu par exemple après les élections européennes, très vite, ces groupes se sont alliés pour voter contre les droits des femmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ces attaques-là? J'ai envie de dire que la première chose, c'est déjà de tendre le micro aux associations féministes, puisque ces enjeux sont liés. Donc les associations féministes connaissent très bien ces mouvements anti-droits. Elles savent déceler leurs pièges, elles savent les démasquer et elles savent comment lutter contre. Et puis il faut aussi que les instances de formation au journalisme ouvrent leurs portes à des collectifs comme Prenons la Une, notamment pour changer les pratiques journalistiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, pour des journalistes, c'est le fait d'admettre que toutes les opinions ne se valent pas, Donc, par exemple, quand on invite une militante féministe, eh bien, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut inviter un masculiniste en face. Exactement. Ça, c'est une chose. Ça veut dire aussi ne pas tomber dans une tentation, peut-être, du clash ou de la polarisation des idées. Par exemple, quand on parle de l'avortement en France, ne plus dire que c'est un sujet clivant. Plus de 80% des Françaises et des Français étaient favorables à la constitutionnalisation de l'avortement, par exemple. Et ça veut dire aussi, je pense, ne pas se laisser un peu distraire par le flot d'outrance absurde d'hommes politiques comme Donald Trump, Éric Zemmour, Javier Milei ou d'autres, mais vraiment documenter l'agenda beaucoup plus large et profondément antidémocratique que tous ces hommes politiques ont en commun aujourd'hui.
Donc il y avait toutes ces idées un peu collectives, mais il y avait aussi l'idée de s'armer peut-être sur peut-être des... en tout cas pour lutter contre des attaques ou du harcèlement qu'on pourrait subir.
Oui, tout à fait. Il y a différents outils ont été partagés. On a eu l'exemple du cordon sanitaire en Belgique, cette pratique qui consiste à ne pas donner de temps d'antenne direct au groupe d'extrême droite, qui a été installé depuis les années 80 et qui, en fait, part d'un bon sens, puisque quand on voit la mesure qui a amené à cette décision, il s'agit en fait de ne pas donner de temps d'antenne direct à des discours liberticides, antidémocratiques ou qui ne rentrent pas dans le cadre légal. Donc c'est quelque chose qui est assez fondamental. Il y a aussi des collectifs qui sont des ressources très importantes. Je citais Prenons la Une. Il y a aussi le collectif Ajar, qui lutte contre le racisme dans les médias, ou la JLI, qui lutte contre les discriminations contre les personnes LGBT dans les médias, également dans les rédactions. Donc ça, ce sont des ressources extrêmement importantes. Et puis ensuite, il y a, je pense, l'action collective, et c'est ça aussi qui est sorti de ce matin, le fait de se dire que nous allons travailler mieux et plus ensemble. Donc il s'agit à la fois de renforcer nos alliances entre nous, parce que ce matin, je pense qu'on était dans un espace avec des personnes assez convaincues, déjà engagées à différents niveaux sur ces questions. Donc ce sont des espaces de résistance absolument indispensables qu'il faut continuer à nourrir. Mais maintenant, il y a aussi l'enjeu d'aller chercher plus loin d'autres responsables. Donc là, ça va être tout notre travail auprès d'instituts de formation de journalistes, mais aussi auprès de décideurs politiques qui ont aussi une responsabilité là-dedans.
Merci beaucoup, Lucie Daniel. Vous êtes responsable du plaidoyer à l'ONG Equipop. Je ne vous avais pas présenté tout à l'heure. Merci.
Un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE qui ont pensé et organisé cette journée et à sa présidente Agathe Hamel. Les 4 épisodes de Femmes et Médias sont à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Présentation, Julia Foyce et Benoît Bouscarel. À la réalisation, Francisque Brémond et Sébastien Morvan de Longue Porteuse et Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coué et Alexandre Langevin.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Une production Longue Porteuse.